le dis à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, à nos staffs, à ceux qui nous sont chers, à tout le monde. Il ne faut pas paniquer, mais il faut absolument écouter ce qu'on vous demande et protégez-vous, protégez les autres, ne prenez pas de risques. Et si vous avez des doutes sur quelque chose, n'hésitez pas à demander à ceux qui peuvent vous aider. Je dis aussi que la quarantaine n'est pas une menace. La quarantaine est une mesure de prévention. Ça permet d'identifier les contacts. Et donc, il faut pas avoir peur de dire « j'ai contacté quelqu'un ». Parce que parfois, les gens, ils ont peur d'être stigmatisés. Ils ont peur qu'on les identifie comme malades. La quarantaine nous permet d'éviter la propagation. Si les gens sortent de la quarantaine, ça veut dire qu'ils n'ont pas la maladie. S'ils avaient la maladie, ils sortent pas. Ils sont mis dans un endroit où ils sont isolés. Donc, il faut pas avoir peur de ça. Il faut pas cacher qu'on a été en contact avec quelqu'un qui a été identifié comme malade. Au contraire, il faut le faire. Il faut faire attention parce que c'est ça le message. Le message, on va gagner. Regardez les pays de l'Asie. C'est les premiers qui ont été affectés. Qu'est-ce qui leur a permis de maîtriser la maladie? On le voit dans toute l'Asie, c'est quelques cas qui restent parce qu'ils ont respecté les instructions qui ont été données par leur pays. Donc je vous demande, c'est le message que j'envoie, nous sommes ensemble, c'est une maladie qui va affecter tout le monde si on ne fait pas attention et si on ne prend pas les précautions pour réduire la propagation du virus.
Ceci est un message de Madame Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO.
Encore une fois, bienvenue dans Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. Une mauvaise alimentation en quantité et en qualité, un faible accès à l'eau potable et des mauvaises conditions d'hygiène sont des facteurs qui rendent les communautés vulnérables lors des épidémies comme c'est le cas actuellement avec le Covid-19, d'après les experts. En cette période de crise sanitaire où tous les secteurs de la vie tournent au ralenti, il y a des risques évidents pour la population de connaître des pénuries alimentaires faute des productions locales suffisantes. Le marché congolais étant souvent alimenté par des produits importés. Alors comment faire pour lutter contre... Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la crise alimentaire en cette période de Covid-19? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions avec nos invités. Nous commençons avec le premier, Monsieur Al Kitenge, analyste économique. Bonjour.
Bonjour.
Alors la première question, Monsieur Al, que peuvent être les conséquences de cette crise sanitaire sur le plan économique?
Les conséquences ne vont pas être, elles sont déjà catastrophiques. Dans la situation d'aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que 90% des gens qui travaillent en République démocratique du Congo et très particulièrement à Kinshasa travaillent dans l'informel. Et à partir du moment où la crise nous frappe au cœur de notre activité journalière, les revenus pour beaucoup sont carrément tombés à zéro. Et donc, nous allons connaître des problèmes réels qui sont d'ordre économique, mais qui vont avoir un impact sur la santé, mais également sur le bien-être des gens. Une des choses qui va apparaître très rapidement, c'est la criminalité. Le banditisme va monter simplement parce que le niveau de stress va être très élevé. Et il est important qu'on se rende compte de ça et que l'État commence à préparer les anticipations. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est important aussi de comprendre qu'on ne peut pas, après la crise, continuer à vivre comme avant la crise. Il faudra être en mesure de structurer et de renforcer l'économie locale.
Voilà. Par exemple, sur le plan alimentaire, qu'est-ce que cela peut entraîner comme des conséquences, surtout que nous vivons des produits qui sont importés?
Je voudrais définir pour vous ce que c'est un produit importé. Un produit importé, ça veut dire qu'en fait, vous avez payé des taxes à l'étranger, vous avez payé des salaires à l'étranger. Pour un peuple, c'est quand même un peu bête, à la limite, de pouvoir continuer dans cette situation. Il est important que cette situation nous enseigne et qu'on se rende compte que notre argent que nous envoyons à l'extérieur finance les routes et le développement dans ces pays, finance malheureusement des salaires dans ces pays. Il est important que on apprenne à créer ce qu'on appelle l'économie domestique. Il est important qu'on apprenne à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. C'est très important que l'État le comprenne et c'est très important que les Congolais eux-mêmes le comprennent.
Voilà, donc il faut encourager l'économie domestique. Alors, quels sont les préalables pour arriver, par exemple, à booster le domaine de l'agriculture pour qu'on ne puisse pas faire face à une crise alimentaire?
Il faut comprendre ça de la même manière que je le disais tout à l'heure. Les gens ont pensé pendant longtemps que c'est l'agriculture qu'il faut booster. Non, ce n'est pas l'agriculture qu'il faut booster. C'est toute la chaîne agricole qu'il faut booster. Regardez à titre comparatif. Nos produits à nous, quand ils quittent les champs, là où on a investi de l'argent, là où la Banque mondiale a mis des centaines de millions de dollars, entre-temps, en même temps que le gouvernement, nos produits finissent par terre et dans les marchés insalubres, bien entendu, sans valeur ajoutée. En contrepartie, vous vous êtes rendu compte que les supermarchés sont en train de piluler à travers toute la ville et tous ces supermarchés ont plus de 90%, plus de 95% de produits importés. Ça veut dire qu'en fait, notre argent sert à acheter des produits qui ont été produits ailleurs, qui viennent d'autres frontières. En fait, nous finançons le développement des autres pays. En termes d'intelligence collective, il y a un très sérieux problème, il y a un questionnement important que nous devons être en mesure de mettre sur la table. Ça veut dire qu'en fait, le gouvernement, comme nos partenaires financiers, ce n'est pas nécessairement la production agricole qu'ils doivent financer, ils doivent financer toute la chaîne. La production, le transport, la logistique, la transformation, la stabilisation et la distribution. Nous devons être en mesure de créer un système cohérent et intelligent pour être en mesure d'avoir un développement agro-industriel important. Je voudrais simplement dire ici que nous ne pouvons pas continuer 60 ans après l'indépendance à acheter notre nourriture par terre, ça n'a aucun sens. Nous devons être en mesure de créer des vrais emplois. On s'est rendu compte avec la crise de coronavirus que l'informel où chacun se débrouille tout seul, ce n'est pas une réponse. Au moment où on a la crise, l'État est censé être celui qui donne des réponses et malheureusement, on se retrouve avec l'État qui n'a pas les moyens de donner des réponses parce que les citoyens ne lui ont pas donné de l'argent pour être en mesure de donner des réponses en temps de crise. Les citoyens ont dépensé leur argent à financer les productions à l'extérieur, à financer le développement dans les pays des gens qui nous envoient des produits ici. Il est donc important que l'État congolais et les citoyens congolais se rendent compte qu'il faut qu'ils se réapproprient l'économie congolaise.
Alors, on nous dit souvent que nous avons 80 millions de terres arables. Alors, par où faut-il commencer pour que permettre aux citoyens congolais de produire ? Est-ce que c'est à l'État de s'investir lui-même ou d'encourager les initiatives privées, les initiatives locales ou communautaires ?
Il y a tout un mix de solutions qu'il faut être en mesure de mettre en place. Et ce mix passe par, malheureusement, la structuration du réseau de distribution. Celui qui maîtrise le réseau de distribution maîtrisera le reste. Pour l'instant, le réseau de distribution le plus important est maîtrisé par les gens qui importent. Les gens qui importent peuvent pêcher localement, peuvent cultiver localement, mais ils choisissent de faire des choses qui les mettent en sécurité. Ça, c'est lié au simple fait que les acteurs économiques du secteur du développement de la RDC sont malheureusement sans contrôle de l'État ni en contrôle citoyen. C'est en grande partie, comme tous les financements sont maîtrisés par les étrangers, sont malheureusement orientés vers les choses qui les mettent en sécurité et ça peut se comprendre. Et donc, il y a un mouvement citoyen, un mouvement patriotique qui doit naître à la fois de la volonté de l'État, mais également de la volonté et de la compréhension grâce à ce coronavirus des citoyens congolais sur le fait qu'à un moment donné ou à un autre, il faut savoir se prendre en charge. Il faut donc qu'on professionnalise chacune des actions que nous menons. On ne peut pas continuer à voir nos mamans en train de circuler à longueur de journée avec des fruits sur la tête et qui perdent 50% de leur production parce que on ne met pas les fruits au soleil. Les fruits se mettent au frais. On ne peut pas continuer à avoir des gens qui vendent par terre au coin de la rue et des gens qui font ça pendant 20 ans, 30 ans. La première fois que la personne tombe malade, elle meurt parce qu'elle ne peut pas se soigner. Créons un cercle vertueux, passons du cercle vicieux au cercle vertueux, arrêtons d'être indifférents à la souffrance des gens et des uns et des autres, soyons d'une intelligence collective brillante qui nous permette de pouvoir donner des solutions réelles qui nous sortent de la situation dans laquelle nous sommes. Le coronavirus est en train de nous enseigner que notre système ne pouvait pas tenir. Nous étions totalement impréparés à ce qui nous est arrivé et il ne faudrait pas qu'une autre crise arrive demain, qu'elle soit d'une autre nature, mais qu'elle nous trouve exactement dans le même degré d'impréparation.
Bien, nous allons accueillir les auditeurs qui appellent pour participer à cette émission. Comment prévenir la crise alimentaire en période de Covid-19? André Kanzai nous appelle des Dungu et Platini Mbombo de Mbandaka. André Kanzai, bonjour. Bonjour André. André, vous êtes en ligne depuis Dungu, bonjour. Bien, il n'est plus là, on va accueillir Platini de Mbombo de Mbandaka. Bonjour.
Je dis bonjour, bonjour les invités, bonjour tout le monde.
Quelle est votre préoccupation ?
Merci beaucoup, je voudrais sincèrement vous remercier pour l'invitation. Et ce que moi je voudrais parler, si sur la thématique du jour, c'est très important. Aujourd'hui, je crois que cette maladie nous est parvenue, bien que c'est bien arrivé au Congo. Mais la thématique du jour, c'est lié sur le plan alimentaire. Et si moi, souvent, je fais allusion aujourd'hui, ici chez nous, à la province de l'Équateur, là, c'est une forme de province vraiment qui est entourée de l'eau, des forêts par ces temps-là. Alors, c'est que moi aussi, je voudrais vraiment constater que, je crois que nous tous, on a suivi les dispositions prises par les gouvernements congolais, par les chefs de l'État, bien qu'il y a la suspension des vols avec les passagers, tout ça. Mais il y a aussi des choses QG. Donc, entre autres, il y a des marchandises QG à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si ça aussi, ça peut se créer sur des problèmes. Et je voudrais aussi parler sur cette thématique, parce que si, je crois que dans la vie des Malak, où là, moi, je suis, je crois que tout le commerce maintenant c'est pondu sur une notaire. Moi, c'était à mettre les bénéfices qui sont qu'on avait donné à les pondos, les manioc qui passaient par là, tout ça. Mais aussi, on voit que non, les choses ne marchent pas tellement bien parce que il y a tout le monde en père. Je dis que non, peut-être ce que moi je fais, ça peut aussi soit m'amener sur d'autres maladies par rapport. Alors, je ne sais pas si vraiment le gouvernement congolais, dans cette période, peut avoir des fils qui ont une certaine période, dans une certaine disposition. Si tous ceux qui font les forêts, les mamans, les papas, tout ça, ceux qui font les forêts, ceux qui manipulent les forêts pour essayer quand même de mettre quelque chose sur le terre, je ne sais pas s'il y a certaines politiques que le gouvernement peut mettre en place pendant cette période de cette maladie de coronavirus. Voilà ce que je voudrais quand même contribuer à cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup.
Bien. Bindou Maoumbi, vous êtes à Masisi. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi qui sont branchés à pareil moment.
Bienvenue, quelle est votre question?
Oui, par rapport à la thématique du jour, j'ai quelques propositions que je vais proposer. Mm-hmm. Pour la situation épidémiologique que nous avons, nous savons très bien que c'est seulement 5 provinces qui sont atteintes déjà du COVID-19, sur 26 provinces. Et maintenant, pour faire face à des problèmes de pénurie alimentaire, le ministère de l'Agriculture et celui de pêche et élevage peuvent mettre en place des exploitations agricoles dans le reste des provinces qui n'ont pas encore enregistré des cas de COVID-19, tout en respectant soigneusement les mesures d'hygiène. Tout ceci pour fournir nos compatriotes en denrées alimentaires. Il doit encore assainir toutes les routes des recettes agricoles. Il doit mettre en place des machines capables de conserver, de transformer les produits agricoles. Tout ceci pour éviter des pénuries, des problèmes de pénurie alimentaire dans notre pays. C'était là l'unique proposition que j'avais proposée à notre autorité pour pallier à ces problèmes de sécurité alimentaire dans cette période où le monde est secoué par le coronavirus. Voilà.
Merci Bindou.
Je vous remercie.
Merci Bindou Maoumbi de Masisi. Antoine, vous êtes à Bounia, bonjour. Depuis Bounia, Antoine, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, vous me recevez?
Oui, on vous reçoit très bien. Bienvenue, quelle est votre question par rapport au thème du jour?
Bon, moi j'ai des préoccupations, hein, pourquoi? Parce que la maladie est venue brusquement comme ça. C'est ici qu'on va avoir des pays qui sont bien organisés, des pays qui ne sont pas bien organisés. Je m'excuse de dire cela, je dis. La maladie est venue brusquement. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Parce que vous avez posé la question en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Mon prédécesseur vient de dire que le pays, le gouvernement, disons, doit se focaliser dans des régions où le virus n'est pas encore là. Mais pour le moment, nous sommes en urgence. Vous voyez, tous les moyens sont focalisés pour la lutte contre le coronavirus. Vous voyez? Mmh. Alors, moi, j'ai proposé ceci. Cette maladie est venue nous donner la leçon. C'est-à-dire qu'après le coronavirus, il faut maintenant penser comment travailler, comment relever notre économie. Hein, faire du genre des boucangalos. Malheureusement, je vis à la télé, moi j'ai pleuré. Il est abandonné. Comme quand Mama Sessa au Katanga, il faudra faire des choses comme ça. Comme ça, ça nous permettra de pouvoir lutter contre disons, des événements qui vont venir après. Hein, vous voyez, il faut aussi diversifier l'économie. Il ne faut pas qu'on puisse se focaliser seulement sur une seule économie. Parce que lorsque un secteur d'économie est attaqué, nous allons de l'autre côté. Hein, vous voyez.
Merci Antoine, désolé, il y a eu coupure. Monsieur Al-Kitenge, vous avez suivi ces trois auditeurs, qu'est-ce que vous pouvez dire?
J'aime beaucoup entendre mes compatriotes et leur intelligence m'éblouit. Vous vous rendez bien compte que ces gens qui sont des citoyens lambda ont un sens logique très élevé. Et c'est inacceptable que collectivement nous ayons des résultats si faibles. Ils mettent le doigt là où il faut. Le dernier intervenant, Antoine, il dit, c'est vrai, nous avons été impréparés à cette situation, mais le plus important pour nous, c'est de tirer des leçons. En fait, il dit quelque chose que je dis différemment. Un pays doit se planifier. Il fait référence à Bukangalonzo. Bukangalonzo a été un échec honteux, mais c'est un échec sur lequel nous devons être en mesure de bondir. C'était une brillante idée, l'exécution a été exécrable. On doit simplement corriger les choses et on doit multiplier des centres de production industrielle, industrialisants. Mmh. De la même manière, on doit être en mesure de faire ce qu'on appelle l'agriculture communautaire. Mais l'agriculture communautaire ne peut tenir que lorsque elle est tenue par une chaîne de valorisation qui amène vers le marché. Parce que la plupart des gens qui ne se donne pas à l'agriculture, ne s'y donne pas parce qu'il n'y a personne et il n'y a pas de système qui absorbe leur production. Et les grands ensembles industriels sont là pour être en mesure de servir de levier pour les petites exploitations et c'est très important. Et lorsque vous écoutez notre ami Hindou de Massissi, Massissi est un endroit où le cheptel est très important et donc il y a du lait et de la viande. Très malheureusement, lorsque vous regardez la valeur de la viande à Massissi et la valeur de la viande à Kinshasa, le rapport est de 1 à 5. Donc il y a juste un manque de connexion entre la production et le marché. Et je disais encore tout à l'heure que pour un pays comme le nôtre, ce n'est pas raisonnable d'importer de la viande du Brésil, de l'Ouganda, et alors que nous avons de la viande sur notre propre territoire. Comment nous faisons pour être en mesure d'organiser une économie domestique intelligente, logistiquement organisée, avec l'information à la base?
Al-Kitenge, on nous dit souvent que dans dans les milieux ruraux, il y a des produits qui pourrissent faute des routes, des dessertes agricoles. Ça veut dire qu'il y a déjà une production quelque part.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut être en mesure de connecter cette production au marché. Et en laissant les gens dans les petites exploitations, nous n'aurons pas les routes nécessaires qui justifie cela, parce que les quantités sont petites. C'est pour ça qu'aux petites exploitations, il faut ajouter des grandes exploitations. Regardez ce qui s'est passé avec Bukangalonzo. À partir du moment où on a mis Bukangalonzo, on a amené le courant électrique, on a fait des infrastructures routières, on a amené de l'eau. C'est ce genre de choses qui sont structurantes, qui peuvent permettre justement que nous soyons en mesure d'avoir à la fois les exploitations industrielles et les exploitations communautaires qui justifient les infrastructures qu'il faut. Moi, je dis toujours la même chose. L'argent qu'on ne dépense pas pour faire les infrastructures, on le dépense en faisant ce qu'on appelle la non-qualité. Ça veut dire qu'en réalité, on perd de l'argent dans les produits qui restent dans les milieux de production et dans le prix élevé que l'on paye en ville, alors que cet argent aurait pu être canalisé pour être en mesure de faire des infrastructures qui sortent. Il faut simplement avoir un plan logique et pour l'instant, très malheureusement, on s'est rendu compte que chacun de nous se débrouillait dans son coin et l'État congolais qui devait être la caisse des caisses s'est retrouvé sans moyens et aujourd'hui ne peut pas agir. Et je voudrais revenir sur Platini de Mbandaka. Platini de Mbandaka, dans sa psychologie, les marchandises doivent venir de Kinshasa vers Mbandaka. Non, la plus grande partie des marchandises est à Mbandaka, elle doit venir vers la ville, vers Kinshasa et les autres villes de consommation. Pourquoi je le dis? Parce que pour Mbandaka, la pêche est l'activité la plus importante, l'agriculture aussi, mais les produits ne sont pas transformés localement au prétexte qu'il n'y a pas d'énergie. Mais en fait, aujourd'hui, il existe des solutions, y compris dans le secteur de la production énergétique solaire, qui peuvent être des solutions immédiates. Il existe aujourd'hui des solutions qui font des chambres froides solaires. Ça veut dire qu'en fait, on peut pêcher, traiter le poisson et le stabiliser et le transporter sur Kinshasa. Il est ridicule de penser qu'on peut faire venir du poisson de la Namibie et qu'on soit incapable de faire venir du poisson de Mbandaka. Et c'est toutes ces questions qu'on doit se poser maintenant en période de crise pour être en mesure de trouver des solutions. Mmh. Et pour ça, bien sûr, il y a une question d'approche politique, et ça c'est le pouvoir public qui est censé le faire, mais il y a également une approche citoyenne. Les universités doivent être en mesure de pondre de la pensée. Les opérateurs économiques doivent être en mesure d'innover. Et je crois que vous, les journalistes, vous devrez être en mesure aussi de pouvoir sensibiliser les gens sur la gravité de la situation. Il ne faudrait pas qu'après la crise,
nous restions exactement dans la même situation. Nous devons devenir un nouveau pays, un pays plus intelligent, plus performant, un pays qui a tiré des leçons de ce qui est arrivé.
Bien. Al Kitenge, nous allons faire un tour à Butembo, dans le Nord Kivu, où certains produits de première nécessité connaissent une baisse progressive des prix sur le marché local. Mais pour le produit importé via l'Ouganda, voisin, les prix varient d'un vendeur à un autre. Les détails dans ce reportage de Florida Karambou.
Parmi les produits vivriers fournis localement et qui ont baissé des prix figure la pomme de terre. Un sac de 100 kg est passé de 90 000 à 50 000 francs congolais. Selon Katembo Kasai, président de la coopérative des dépositaires des produits vivriers, les transporteurs de ces produits qui les acheminaient dans d'autres provinces ont arrêté leur évacuation depuis la suspension des mouvements des personnes en province du Nord Kivu suite au COVID-19. D'où la consommation reste locale, a-t-il dit. Katembo Kasai a été joint au téléphone.
Preneur va côté à Beni.
Les preneurs du côté des Beni, des Bounia ne viennent plus. La consommation est maintenant locale. Il n'y a plus moyen d'évacuer ailleurs. C'est un problème. Vous savez que ce sont des produits périssables. Les transporteurs vont bientôt se lamenter. La plus grande consommation est locale. Normalement, on ne devrait pas payer les taxes pour la pomme de terre. Mais le ministre s'est contredit. Il a demandé qu'on fasse payer les véhicules et contrôler les documents de bord des véhicules transportant des vivres. Or, nous considérons cela comme une exception. Maintenant, les camionneurs nous les font payer pour récupérer leur argent. Ils ne peuvent pas se laisser faire. Quelle autorité revoit sa décision? Quand on voit un véhicule qui transporte des vivres, le passage doit être libre. Pas question de spéculation sur les contrôles des documents, tout ça.
Pour les denrées alimentaires importées via l'Ouganda voisin, les prix de plusieurs produits n'est pas encore uniforme sur les marchés. C'est par exemple les poissons salés, l'huile végétale, les œufs, les sels de cuisine, pour ne citer que cela. Juste au téléphone, le président de la FEC Butembo Lubero a fait savoir que lors de la prise des mesures préventives contre le coronavirus par les pays voisins, par lesquels traversent les marchandises venant à Butembo, les opérateurs économiques avaient connu des blocages des véhicules, ce qui avait expliqué la flambée des prix des produits importés. Polycarp Individuo indique cependant qu'actuellement, rien ne justifie cette hausse des prix sur le marché local.
Pour le moment, nous avons une petite stabilité parce que l'Ouganda nous a permis d'importer tout ce dont on a besoin. Il y a des produits qu'on achète au Kenya, il y en a qu'on achète en Asie et tous ces produits, le Kenya les a fait passer sans problème jusque donc du port de Mombasa sur Malabo ou Busia et l'Ouganda qui est compliqué, ils ont laissé passer finalement. Et donc, on n'a aucun problème. Le transport, les prix sont restés intacts. Le prix du carburant n'a pas monté. Au contraire, le prix du carburant a baissé. Baril, à l'échelon international, il a baissé de prix. Alors, il n'y a pas de raison que le prix de transport puisse monter. Il y a eu une petite peine lorsque les chauffeurs, auparavant, là, il y a eu un moment, les transporteurs à provenance du Kenya, ils avaient difficulté pour entrer parce qu'il fallait qu'ils fassent le système de quarantaine. Donc, c'est à ce moment-là que les camions qui étaient bloqués ont provoqué une petite pénurie, ce qui a fait un petit réchauffement du prix sur le marché.
Pendant ce temps, le prix du kilogramme de la viande du bovin n'est fait que grimper. Il est autour de 5 dollars ou plus d'une boucherie à une autre, contre près de 4 dollars dans le passé. Le président de la FEC, Butembo Lubero, indique que le confinement des fournisseurs des bovins de la Tanzanie et de l'Ouganda est à la base de la carrosse de la viande. Outre cela, il ajoute l'activisme des groupes armés autour des fermes locales qui fournissent des bêtes.
Oui, nous avons des opérateurs économiques qui sont dans ce secteur-là. C'est-à-dire les bêtes au niveau local, on a des sérieux problèmes. Parce que avec les civils qui ont envahi nos fermes, la production animale a baissé localement. Et comme ça, le déficit est complété par l'apport à partir de la Tanzanie ou à partir de l'Ouganda. Et c'est comme ça qu'on survit à Butembo. Maintenant, avec les confinements, c'est là que ça fait un problème. Alors, nous devons être solidaires. Cet écrit d'alarme qu'on doit lancer auprès des étudiants qui sont dans les fermes de libérer le secteur. Parce que si ce secteur continue à être bloqué, ça ne va pas aider la population. Il faudra qu'ils pensent à leur population.
Pour Edgar Matesso, vice-coordonnateur de la société civile du Nord Kivu, la neutralisation de ces groupes armés devrait être une priorité pour le gouvernement congolais afin de résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire en cette période pandémique du COVID-19.
Il y a aussi des groupes armés, justement, qui empêchent la communauté locale à produire davantage. Et donc, urgemment, il faut intensifier les actions de sensibilisation de groupes armés. Vous savez, il y a plusieurs en droit dans cette province qui sont sous le contrôle total des groupes armés. Et parfois, ces groupes armés peuvent empêcher certains habitants à aller au champ ou à aller travailler, à aller produire. Et donc, ces groupes armés devraient aussi libérer les passages et permettre à ce que la population accède facilement aux productions des champs, de sorte que les entrepôts qui sont dans les grandes agglomérations, qui sont dans les villes, qui sont dans les villages, soient toujours alimentés.
Il plaide aussi pour la réhabilitation urgente des routes de dessertes agricoles pour faciliter l'évacuation des produits des champs vers les grandes agglomérations. Butembo, Florida Kaambo, Radio Okapi.
À Butembo, sur 92.9 FM.
Merci Florida Kambou pour ce reportage. Au Capi Service, nous parlons aujourd'hui de comment prévenir une crise alimentaire, la crise alimentaire en période de Covid-19. Al Kitenge, analyste économique, est notre invité. Al, vous avez suivi le reportage de Florida, de Butembo. Quelle est votre réaction?
En tout cas, brillant reportage de Florida et qui nous révèle deux choses importantes. La première, c'est que nous sommes un pays essentiellement rural. 80% de nos populations vivent dans les milieux ruraux. Et très malheureusement, l'argent de l'État est investi et consommé dans les milieux urbains. La conséquence, c'est que nous avons une centaine de groupes armés qui aujourd'hui prennent en charge des parties entières de notre République et qui les paralysent. Et ça, vous vous rendez bien compte que ça finit par nous frapper en ville parce que finalement, nous finissons par payer beaucoup plus cher. Je pense que la leçon la plus importante pour l'État, c'est qu'il est important qu'il prenne en charge les milieux ruraux où vivent le plus de personnes, qu'on investisse l'argent de l'État là-bas, et de manière naturelle, cet argent finira en ville. Et vous savez, on appelle ça l'économie de la guerre, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il faut passer à la guerre économique. Il faut investir intensément dans les milieux ruraux pour aller réveiller l'économie rurale, la moderniser pour qu'elle soit en mesure d'être en face-à-face vis-à-vis de l'État et vis-à-vis du milieu urbain. Il est important qu'on recrée une économie nationale, une économie domestique unique, pas une économie des milieux ruraux que nous exploitons et l'économie des milieux urbains où chaque fois que nous gagnons de l'argent, il va en Europe. Il est important que nous soyons en mesure d'avoir un sens logique dans notre économie congolaise parce que les groupes armés que nous voyons sont la conséquence d'une mauvaise économie et de la pauvreté. Et si nous y donnons des réponses, et la réponse aujourd'hui est économique, la fluidité va se créer au niveau de la production, de la stabilisation, de la transformation. Et vous vous rendez bien compte que cette dame qui parle des pommes de terre, la seule panique avec les pommes de terre, c'est que ce sont des pommes de terre nature. Ça sous-entend qu'en fait, au bout de quelques jours, elles vont s'abîmer, on va les jeter, c'est pour ça qu'on baisse les prix. Si on pouvait les transformer localement, qu'on pouvait les stabiliser, on aurait eu le calme nécessaire pour être en mesure de les acheminer sur les marchés le moment venu dans des conditions correctes. Et je crois simplement, encore une fois, que nous devons quitter la précarité de l'économie de base pour aller vers une économie de chaîne de valeur.
Bien. On va accueillir Antoine Debounia. Bonjour. Voilà, Antoine n'est pas là, mais vous avez suivi tout à l'heure Bindou de Maombi de Massis qui a fait quelques propositions. Par exemple, il dit dans les provinces qui ne sont pas encore touchées par cette maladie, l'État peut investir, exploiter des, disons, l'État peut investir dans l'exploitation agricole. Et il a proposé également avoir des usines, des unités de transformation des produits. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets?
Il y a un de vos auditeurs qui lui a répondu. Commencer à produire aujourd'hui, ça prendra du temps. Je pense simplement qu'il est important de pouvoir identifier les stocks là où ils sont, être en mesure d'organiser la logistique nécessaire pour être en mesure de les évacuer, et progressivement, province par province, être en mesure d'avoir un plan intégré de développement, qui puisse être en mesure de communiquer avec les autres provinces pour avoir le plan national de développement. Je pense que cette période, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça devrait être une leçon fondamentale. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que le coronavirus frappe la ville et pas le milieu rural? Et est-ce que vous êtes rendu compte que le milieu rural reste bloqué simplement parce que l'acheteur principal, le seul acheteur est en milieu urbain? Et en fait, nous avons créé sur notre propre territoire une espèce de colonisation de l'urbain vis-à-vis du rural. Nous devons changer cet aspect des choses. Ça nous amènera à la paix, ça nous permettra de pouvoir produire et consommer localement, et ça nous permettra d'avoir un sens logique économique. Et je crois qu'il est important aujourd'hui qu'on se rende compte que nous vivons des réalités complètement différentes. La Gombe à 55% des personnes touchées par le coronavirus et Matine à zéro. Et vous vous rendez bien compte que ce n'est pas le fait du hasard. Ce genre de choses devrait nous faire réfléchir et nous rendre compte que nous vivons dans plusieurs pays à la fois. Et donc aujourd'hui, nous sommes obligés de réfléchir global, intégré, pour qu'on soit en mesure de donner une chance à chacun des citoyens là où il est en fonction de ses potentiels. Et si nous réfléchissons comme une entité unique, nous allons nous rendre compte qu'il est pas raisonnable de notre part d'importer de la viande de l'Ouganda, de la Tanzanie, alors que nous avons de la viande dans le Massissi, dans le Rutshuru, qui sont juste à côté, dans la même province que les autres villes que nous avons citées tout à l'heure. Mmh. Et donc, si nous regardons les choses de manière intégrée, on va se rendre compte que Kinshasa n'est pas si loin de Goma. Il suffit simplement de nous organiser et d'avoir une logistique correcte. Il y a en Europe des pays qui des véhicules qui traversent 5-6 pays pour aller livrer une marchandise. Et donc, si nous le voulons, si nous pouvons être en mesure d'organiser le pays et lui donner les infrastructures nécessaires pour être en mesure d'avancer. Dans tous les pays du monde, les grandes autoroutes n'appartiennent même pas à l'État. Elles appartiennent à des privés et des fois à des fonds d'investissement qui sont étrangers, y compris en France et aux États-Unis. Les autoroutes ne leur appartiennent même pas. Elles appartiennent à des sociétés étrangères qui sont financées par des fonds de pension, des fois australiens. Donc nous devons être en mesure simplement de moderniser notre façon de penser et de concevoir un pays différent. Il faudrait bien qu'à la sortie de la crise du coronavirus, nous ayons un pays qui marche pour tout le monde.
Bien, on va accueillir Jonas de Kananga et bienvenue de Kikwit. Jonas, bonjour.
Je dis Daniel, bonjour. Bonjour à M. Akiteng et à tous les auditeurs de Radio Ravi.
Quelle est votre préoccupation par rapport au sujet du jour?
Merci M. Jody. Autant qu'il m'en souvienne, à peine entré aux affaires aux commandes de la province, le gouverneur du Kasaï central avait pris un arrêté fixant le prix du maïs. Je crois que le maïs est le denrée le plus cher à Karanga. Mmh. Le prix du maïs à 1000 francs congolais, alors que le gouvernement ne possédait même pas un méga en stock. Alors, cette mesure avait été foulée au pied, car ce sont les opérateurs économiques qui, avec leurs moyens propres, ravitaillent la ville en denrées alimentaires.
Jonas, est-ce que la crise de maïs persiste toujours à Kananga?
Oui, j'y vais. La crise persiste, mais il y a deux jours, ce sont les Bayanda qui ont essayé de ravitailler la ville.
Les transporteurs.
Oui, je disais que ce sont les opérateurs économiques qui, par leurs moyens propres, ravitaillent la ville en denrées alimentaires. Parce que de ce côté-là, vraiment, le gouvernement provincial est dans une sorte d'apathie. Alors, je voudrais demander à M. Akitenge, bon, maintenant que les mouvements sont suspendus, bon, les trains entrent difficilement, ainsi de suite, quelles sont les mesures qui peuvent être accordées, les mesures salutaires qui peuvent être accordées aux opérateurs économiques qui paient des taxes, ainsi de suite, pour qu'ils se sentent un peu à l'aise afin de continuer à fournir la province en denrées alimentaires. Et deuxième préoccupation, nous avons appris par la voix de la radio Capi, bien sûr, que Kinshasa avait été approvisionné, ravitaillé en denrées. Mais qu'en est-il du reste des provinces? Car le Congo n'est pas seulement Kinshasa.
Bien, merci Jonas. Merci Jonas de Kalanga. Bienvenue, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, j'ai dit. Je vous ai suivi bien.
Bienvenue. Désolé, la communication n'est pas bonne. On ne vous entend pas correctement. Peut-être, je vais vous demander de vous déplacer un tout petit peu. Peut-être que la liaison peut s'améliorer. Non, on me fait signe que ce n'est pas possible. Ah, Jérémy est en ligne depuis Lubumbashi. Bonjour. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour également à l'invité. Je pense que notre pays est potentiellement riche, mais il se fait malheureusement que tout est bloqué. Moi, je me demande, c'est comme un véhicule qui est là, exposé sur la voie, mais il attend quelqu'un pour appuyer sur le bouton pour que le véhicule décolle. Donc c'est comme ça qu'il se passe dans notre pays. Je pense que ce qui manque à notre pays, c'est juste la politique, pour pouvoir, n'est-ce pas, booster un peu l'économie dans notre pays. Je vais un peu vous faire une anecdote. Vous savez que les retombées de l'économie aujourd'hui sur le plan alimentaire a amené beaucoup de problèmes. C'est comme si cette pandémie est venue nous apprendre bien des choses. Parce que vous savez, on dit souvent lorsque le malheur arrive, il nous amène beaucoup de choses et c'est à ce moment-là que les gens commencent à raisonner. Je pense que quand vous regardez ici chez nous à Lubumbashi, nous ne vivons que si la Zambie fermait, ça veut dire que Lubumbashi ne vit pas.
Et pourtant, moi, je me demande, il y a beaucoup, tous ces gens-là, nos députés, ceux qui travaillent dans les ministères, je pense que chacun doit mettre la main à la pâte. Vous créez peut-être une minoterie qui doit profiter au peuple congolais. Mais comment voulez-vous, tout le monde est en train de rester. Bon, je pense qu'on nous a appris qu'on ne doit pas s'adhérer à une seule chose. Si quelqu'un amène, par exemple, on a vu certains éminents professeurs qui ont créé les universités, mais les autres, là, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est question de pouvoir exploiter l'agriculture qui est jusque-là, qui est clouée au sol. Je pense que notre pays doit avancer. Mais nous serions quand même... je pense que la situation ici économique, sur le plan ici, donc il y a une baisse un peu de 50% sur le plan alimentaire. Ça, c'est un geste à saluer. Je pense que... Et aussi, cette pandémie a amené beaucoup de choses. Il y a l'insécurité qui continue vraiment à grandir ici dans notre province. Donc, maintenant, on entre, maintenant, ce n'est plus question de demander, on ne demande plus même l'argent, même la farine, on prend. C'est ce qui est inacceptable. Je pense que, tout simplement parce que les gens ne sont pas occupés, n'ont pas de travaux. Regardez, par exemple, les cas des enseignants aujourd'hui, certains. Les gens, certains pleurent. Pourquoi? Parce que, il y a eu, l'affaire est venue comme ça, comme un coup de massue, et ils ne savent pas quoi faire. Mais si, il faut maintenant mettre sur pied une politique, commencer un peu à apprendre aux gens comment ils doivent commencer à cultiver leur environnement, comment ils doivent mettre une politique sur place. Chacun doit avoir au moins une petite occupation en dehors de ce qu'il fait ici aujourd'hui.
Merci Jérémy. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Monsieur Al-Kitemge, vous avez la parole.
Jérémy soulève plusieurs problèmes à la fois. Il soulève le problème du leadership, et moi quand je parle du leadership, je parle du leadership à plusieurs paliers, du haut jusqu'au bas de l'échelle, et il est important que les gens se prennent en charge. Et il soulève la question de apprendre de la crise. Il ne faudrait pas qu'après la crise, nous soyons les mêmes personnes. Il parle de la Zambie. C'est une honte que nous continuions, 60 ans après l'indépendance, à importer la nourriture de base de la Zambie, qui est un territoire de loin plus petit que le nôtre, qui a exactement le même climat que nous. Je pense qu'il est important qu'on se rende compte qu'il faut nous réveiller. Il parle de besoin de minoteries. Non, il y a deux minoteries qui sont en arrêt à Lubumbashi, qui sont très grandes, qui sont capables d'alimenter toute la province. Il y a des minoteries à Komedi, il y a des minoteries à Likasi. Donc ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est des choix. Je disais encore tout à l'heure, il y a des gens que cela intéresse d'importer des biens parce que c'est leur business. Et qui ne sont pas du tout intéressés à pouvoir mettre de l'argent de l'État et l'argent des privés dans la production locale parce que ça ne les intéresse pas du tout. Et c'est là que nous devons être en mesure d'être sérieux et c'est là qu'il interpelle le leadership. Je voudrais revenir sur Jonas du Kasaï Central.
De Kananga, oui.
Oui. Il dit oui, le prix du maïs par arrêté du gouverneur. Mais c'est la chose la plus ridicule qu'un gouverneur puisse faire. Si vous n'avez pas, vous, des stocks stratégiques, vous ne pouvez pas réglementer le prix. Le choix de notre pays, c'est une économie libérale, ça veut dire qu'en fait, le prix sera toujours déterminé par la loi de l'offre et la de la demande. La seule chose qu'un gouverneur peut réellement faire dans ce genre de circonstances, c'est de signer un partenariat, un contrat de performance avec des allègements fiscaux vis-à-vis des opérateurs économiques et leur demander de s'engager à approvisionner à des prix qui peuvent être étudiés et acceptés. Il n'y a que de cette manière qu'on peut, dans ce genre de situation, trouver une solution collégiale. En dehors de ça, c'est tout simplement impossible. Les opérateurs économiques dicteront leurs règles. Il parle de Kinshasa, où le gouvernement a effectivement parlé avec les opérateurs économiques pour voir s'il y a des moyens.
Il y a eu des allègements fiscaux et des exonérations accordées à ces importateurs.
Aussi simple que ça. Et ça a permis aux opérateurs économiques de pouvoir, encore une fois, importer des biens pour être en mesure de positionner du stock localement. Combien de temps ce genre de choses pourront toujours être en mesure d'être tenues? Je crois que, d'une manière générale, il faut, à un moment donné, prendre le courage de regarder le problème de manière globale et d'y répondre de manière intégrée.
Bien, nous allons faire un tour dans la province du Bandundu pour retrouver notre consoeur Irène Boma qui nous propose un reportage toujours par rapport à la crise alimentaire en cette période des Covid-19. Suivons.
Okapi Service. À Kinshasa, en province et à travers le pays, découvrez vos problèmes grâce au reportage service. Okapi.
Nous demandons aux autorités, si possible, de pouvoir arranger les routes si rapidement pour que cela puisse nous aider au transport des marchandises en provenance de Kinshasa et même en provenance des villages. Nous demandons également aussi au gouvernement, surtout provincial, de pouvoir doter des familles avec des instruments d'agriculture, puisque nous sommes une province qui vit de ce travail d'agriculture. Alors, si nous pouvons avoir des bêches, des arrosoirs, voire même des tracteurs, pourquoi pas, pour que le travail puisse aller rapidement. Si le travail est bien fait, nous ne serons pas en rupture des aliments agricoles. C'est possible de le faire. Nous ne savons pas quand est-ce que le confinement pourront terminer. Nous serons à mesure de travailler chacun à la maison pour avoir un jardin potager et trouver de quoi manger.
De la famille, on a du mal à acheter de la nourriture, du riz, parce que ça, les commerçants ont augmenté le prix en disant que il y a le coronavirus, il n'y a pas l'entraînement. C'est pas vraiment ce qu'on attendait. Le coronavirus, pour nous, c'est pas du tout une raison pour augmenter le prix des nourritures, du riz, du sel. Avant, on achetait du sel à 14 000 francs une sac. Mais maintenant, là, c'est à 30 000 francs. Donc, on a du mal à acheter de la nourriture. Deux fois, on mange pas bien parce que le taux a augmenté. Donc, c'est vraiment difficile ces derniers temps. À part du sel, il y a aussi du sucre. Avant, on achetait à 2 500. Maintenant, c'est à 4 500. Là, c'est le colo jaune. Et puis maintenant, il y a aussi du riz de 800 francs à 1200. Et il y a aussi de l'huile même de tomates. Avant, on achetait des tomates à 24 000 francs. Aujourd'hui, on a un carton de tomates à 26 000 francs, 27 000 francs deux fois. Donc, par pièce, c'est à 300 francs. Donc, on a vraiment du mal à se provisionner parce que le taux a augmenté en raison du coronavirus.
La lire où vont les choses, ce n'est pas COVID-19. Qui va nous tiller, c'est la famine qui nous tillera. Donc, je demande aux autorités politico-administratives de la province du Kwilu, du Kwango, du Congo central et de Kinshasa qu'on puisse réfléchir par rapport à ça. Comment les opérateurs économiques de la province du Kwilu, du Kwango et du Congo central pourront accéder facilement dans la ville de Kinshasa? Gouverner, c'est prévoir. Donc, je demande, le gouvernement provincial doit aussi faire le management de façon que nous ayons aussi nos opérateurs économiques, des magasins, des gros comme je vois qui quittent ici même dans la ville de Bandundu, même des industries de transformation dans la province du Kwilu.
Oui, pour prévenir l'insécurité alimentaire pendant cette période de pandémie, qu'il serait mieux que le gouvernement central puisse essayer de doter aux gouvernements provinciaux, n'est-ce pas, des engins capables de pouvoir transporter les histoires, les vivres, les produits alimentaires de la ville province de Kinshasa vers les provinces, mais aussi qu'ils puissent doter des engins qui seront capables de transporter des vivres des milliers ruraux vers les milliers urbains. Il y a aussi un problème que j'aimerais souligner. Les habitants doivent savoir, comme il y a rareté des histoires, mais quand ils arrivent quand même à voir ces histoires-là et qu'ils ont un peu de moyens, un peu d'argent, quand ils achètent, ils doivent stocker ces histoires, acheter surtout des histoires qui se conservent longtemps. Mais aussi, c'est dans la manière de gérer ces histoires-là. Quelqu'un qui mangeait, par exemple, jusqu'à être rassasié, il mangeait 2 boules, 3 boules. Donc, il y a possibilité de réduire tant soit peu. S'il mangeait 1 boule, il peut mettre demi-boule le matin, demi-boule le soir, pourvu qu'on ne manque pas à manger.
Pendant cette période de crise, nous remarquons que le prix de certains produits alimentaires ont augmenté, surtout les produits qui viennent de Kinshasa. Cela nous empêche de faire des provisions telles qu'il se doit. Nos enfants ne mangent plus bien. Nous sommes vraiment en insécurité alimentaire. Pour prévenir cette insécurité alimentaire, nous demandons aux autorités politico-administratives de veiller à la réglementation de prix des produits alimentaires sur le marché. Que celui qui vendra au-delà de ses prix soit interpellé.
Il est mieux que les agents de l'ordre qui sécurisent des routes, qui sécurisent des villes, qu'ils arrivent à laisser un libre aller aux paysans qui amènent leurs produits agricoles pour vendre vers les centres-villes. Pour cela, ça pourra aider la population, n'est-ce pas, à avoir de quoi à manger. Sinon, les villageois auront peur puisqu'ils sont tracassés de temps en temps par les agents de l'ordre sur leur passage vers les grandes villes. Cette période de crise, on ne sait pas, ça pourra prendre combien de temps. Si ce qui est vrai, il serait mieux que chacun de nous puisse penser à mettre un peu de plantes bandes, des légumes, ce qui poussera dans 2 ou 3 semaines et qu'on sera déjà en mesure de consommer.
Akikwit sur 103.5 FM.
Merci Irène Mboma pour ces micro-baladeurs à Bandundouville. Les gens se sont exprimés librement par rapport à cette crise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont fait aussi des propositions. Al Kitenge, votre réaction?
Il y a quelque chose qui revient de manière assez régulière. C'est le besoin pour les citoyens de pouvoir organiser des solutions locales en se prenant en charge dans le cadre de leur propre parcelle. C'est des idées innovantes et le monde entier fait la même chose. Les Chinois, partout où vous les mettez, ils cultivent sur le côté l'ensemble des choses qu'ils peuvent consommer au quotidien. Ils peuvent élever des poules, ils peuvent élever des canards. Et je pense que des choses sur lesquelles nous devons être en mesure de rentrer pour consommer bio et local. Par contre, il y a quelque chose d'autre qui revient de manière régulière aussi, ce sont les tracasseries. À partir du moment où la pauvreté devient élevée, la tracasserie vient d'abord des gens qui sont armés. Que ce soit les gens qui sont armés officiellement, ça veut dire la police et notre armée, ou que ce soit des groupes armés délinquants qui, eux, s'improvisent et, bien entendu, se mettent à créer l'insécurité. Ça revient à ce que je vous disais, on a deux économies. Soit on a l'économie de la guerre, soit on a la guerre économique. Il appartient à l'État de structurer la guerre économique pour que nous soyons une puissance économique. Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui revient sur les produits qui viennent de Kinshasa. En fait, les produits qui viennent de Kinshasa ne viennent pas de Kinshasa. Ce sont des produits importés. Ils viennent des autres pays et il est important que les gens comprennent ça de manière assez claire. C'est que l'insécurité alimentaire que nous avons est liée au simple fait que nous sommes un pays exposé. Et il y a une dame qui le disait si bien. Elle parle du riz, elle parle du sel, elle parle du sucre, elle parle de la tomate. Eh bien, le riz, le sel, le sucre, la tomate sont des produits que nous pouvons produire en République démocratique du Congo, et nous les produisons ici, et ils pourrissent dans nos milieux ruraux. Et donc, il est important pour nous de nous rendre compte que nous sommes juste en train de payer le prix de l'inconséquence et du manque d'organisation. Et que ce Covid-19 nous permette justement de nous rendre compte que nous pouvons repousser les limites en nous organisant correctement, et c'est une question de leadership. Et ce n'est pas une question du leadership du chef de l'État. Laissez le chef de l'État tranquille. C'est une question du leadership des bourgmestres, des chefs de district, des gouverneurs et des opérateurs économiques. Le citoyen doit se prendre en charge. C'est ce qu'on appelle le leadership intégré. Et il est important qu'on se rende compte que si nous nous prenons en charge et nous exprimons la demande correctement, l'État congolais comprendra. Il y a quelqu'un d'autre qui est revenu sur quelque chose de très simple que j'avais déjà évoqué avant.
Oui.
Cette fracture entre le rural et l'urbain. L'État congolais dépense plus de 80% des budgets en milieu urbain, alors que 80% de notre population vit dans les milieux ruraux. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça nous a montré des limites dans le cadre logique normal. Mais la crise nous le dit et nous le renvoie à la figure de manière encore la plus violente. Il est important qu'on se rende compte que nous devons dépenser de l'argent le plus à l'intérieur possible du pays pour qu'il puisse être en mesure de jaillir sur l'étendue de la République. L'argent que l'on dépasse à Kinshasa et à Lubumbashi finit en Afrique du Sud et en Europe. L'argent qu'on va dépenser dans les milieux ruraux finira en ville et finira par éventuellement engendrer un développement.
Alors, Al Kitenge,
le paradigme change.
Oui. Al Kitenge, pour terminer, nous retenons, qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous avez dit qu'il est important que cette crise doit nous amener à développer l'économie domestique et surtout la chaîne agricole, la production, la distribution, les transports, tout ça, les gouvernements doivent être en mesure de s'impliquer et d'encourager aussi les initiatives privées.
Non seulement encourager les initiatives privées, mais aussi décourager les importations inutiles qui gaspillent nos devises et qui gaspillent notre argent. Mais également éduquer le peuple congolais à pouvoir reconnaître la production locale comme étant de la qualité et non ce que est le résultat de ce que nous montrent les chaînes de télévision, comme quoi ce qui est importé est nécessairement meilleur que ce que nous avons ici. Il est important qu'on se rende compte que notre développement passera par le travail local, passera par la valorisation locale. Et ça doit être notre leitmotiv, ça doit être notre nouveau logiciel.
Bien. Al Kitenge, analyste économique, merci et excellente journée.
Excellente journée à vous aussi. Merci.
Bandi mignon so balingi kokota lola. Mais basali ko bangali wa. Ba koleki la wapi. Passage obligé. Père Jean-Pierre Bochoko. Abe Senghor. Alain Kabamba, Abbé Robert Pembele.
Lula qui est l'oukenina, madame Jean-Marie. Amour, yon, anima, qui était au souké la marouille. La comique, au kanga mananda, kolokula, nyamanazo. Kakapona, kobanga, bato, batou, na baïba, poni, to kabouani. La lembibe, explication, m'interviewa, kopé, sanabato, Jean-Marie, loukoulasie.
Et là-bas, journaux, joki bongi. Michel, la diluya. Ebolinga la linga ki ke linga makambo ya dema
amuro yo na ndima kite kosuke na ngabuni na komi ko kanga mananda kolokula nyama na zui kaka pona ko banga bato batu na baiba poni to kabani na lembi be explication be interview ya ko pesa na bato na batele
e na ba journou donki e batu na nga baiba poni to kabani.
Christian de Sapoil, Top Congo.
Zonga, zonga, Jean-Marie Moukoulasi, on monte ma. Zonga, zonga, Nami Touni Touni, Nini Nana Salio Moukoulasi.
Abdul Daya Shop,
Nami Leli.
Zomwela la pointure au-dessus, Vida Shenzinga. Et la blanche n'est pas les, Bissoyako kanga ma pépé.
Tellement confiance, les kakina petit moto na libanga.
Makila ma sangani na ina soya monopoué.
Na belle la kina lili moto tayo kaki koule la nangai. Heureusement kolo ya welo kolinga na dikulu.
Alo binanga mwana tamola kaka na limingai. Un jour au Bukindi, Namboka, Moussika, au Kongo, Tessika, Bolingue, Kolanda, Yokakaye, Yale.
Zonga, zonga, Jean-Marie Loukoulasi, Pichu Loukoulasi. Zonga, zonga,
Rami Amisi, Bijou de Mpongo, Sam.
Naboya kinanga lika mwango yoloba kinanga la bangate Yoko emenga jamari Napena motema na longola kidute na loba kipene senanwe Napesio motema nangai Yomonisi kuyune goko nyo salanga napesi conscience nanga rezo Yelobe la kinanyi Kena sala keba kongoli webo makabwa masoki la siyo motema Yoko nondo tona susi. Miami sonanga na bomba kipuna dilangu ya baba boti ule bisinga hapongo na sengi yo pardon ya kato salami zopwensi mukene na yo kubasi ujamba mokite koperenga motema balongo na bolingo yuti ya kasi na kayime natika la kolela e
Mike Michel Kapala, merci.
Nous tenons à rassurer nos compatriotes de garder le calme en respectant les mesures d'hygiène suivantes. C'est laver fréquemment et soigneusement le main avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. En cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après utilisation.
Ceci est un message
du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo.
Bienvenue sur Okapi, une voix pour tous. Vous écoutez en ce moment le magazine de la vie Okapi Service. C'est la deuxième partie de l'émission. Nous poursuivons avec notre thème du jour. Comment prévenir la crise alimentaire en période de Covid-19? Une mauvaise alimentation en quantité et en qualité, un faible accès à l'eau potable et des mauvaises conditions d'hygiène sont des facteurs qui rendent les communautés vulnérables lors des épidémies, comme c'est le cas actuellement avec coronavirus, d'après les experts. En cette période de crise sanitaire où tous les secteurs de la vie tournent au ralenti, il y a des risques évidents pour la population de connaître des pénuries alimentaires, faute de production locale suffisante. Le marché congolais étant souvent alimenté par des produits importés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter, pour prévenir une crise alimentaire en cette période? Eh bien, c'est les sujets que nous abordons dans Okapi Service. Tout à l'heure, nous allons recevoir Jean Dédieu Minengouk, doyen de la faculté d'agronomie de l'université de Kinshasa. Avant cela, nous avons quelques auditeurs en ligne. Albert Kotolo de Mbandaka, Yav nous appelle de Kolwezi et Simon de Kananga. Albert Kotolo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité.
Bienvenue, Albert. Quelle est votre préoccupation?
Bon, ma préoccupation est la suivante, monsieur le journaliste. D'ailleurs, je félicite les sujets vraiment intéressants dans le sens que ça marche à la une. Ici à Mandaka, nous avons des différentes difficultés qui concernent les denrées alimentaires parce qu'il y a aussi la hausse des prix. Et moi, je demanderai aux autorités centrales au niveau national de prendre un peu en charge, de fixer un peu les prix au moins cher. Parce que, par exemple, ici à Mandaka, les bidons d'huile se vendaient à 12 000 francs, à 13 000 francs congolais. Mais actuellement, le bidon se vend à 25 000 francs congolais, voire même 30 000 francs congolais. À ce moment-là, j'espère que les autorités compétentes seront aussi nous prendre en charge en fixant les prix de denrées alimentaires des premières nécessités-là. Et ça peut aussi aider la population dans le sens que, parce que ceux qui vendent ici en Mbandaka, ils achètent auprès de ceux qui proviennent de l'intérieur. Mais ceux qui proviennent de l'intérieur-là, ils ont augmenté les prix. Qu'est-ce qui a fait que nous aurons actuellement l'augmentation? C'est grâce à cette maladie. Et surtout les autorités aussi, je prie aux autorités compétentes au niveau national de prendre en charge, et les autorités provinciales dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo de prendre en charge les marchandises des premières nécessités.
Albert, on a appris qu'en Mbandaka, il y a beaucoup de poissons. En Mbandaka, est-ce que la production locale des poissons est toujours la même ou il y a des problèmes?
Non. Maintenant, présentement, il y a une diminution vraiment grave. Au moment où je vous parle, je suis dans l'Afrique hôtel et je vois les fleuves. Il y a même moins les pêcheurs qui sont là. Ils ont aussi les prix des denrées alimentaires là. Que ce soit les poissons, quels que soient les produits de première nécessité, là, ça a augmenté. Je suis en face avec moi. Je vois même des pêches. On a réduit même la quantité. La quantité ou la grandeur du pain qu'on vendait à 300 francs, on a dit. Moi, ma femme, elle l'a acheté du pain là, mais elle a diminué la grandeur. C'est à partir de cette maladie. Il y a aussi des affaires de tout. Au moment où je vous parle, je vois une fille là qui passe devant moi, qui vend des tout cas là. On a diminué un peu la grandeur.
La quantité.
De la quantité. Vraiment, c'est aussi parce que nous avions eu une grande quantité, c'était dans les mois de février, parce que, comme vous le savez, chez nous ici, nous sommes dans l'équateur, nous sommes entourés des eaux. Lorsqu'il fait un peu sèche là, il y a aussi la présence des poissons. Mais actuellement, nous passons dans une situation vraiment dangereuse, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment aussi à manger comme il faut. Les produits de première nécessité, sont augmentés.
D'accord, merci. D'accord, on a compris. Merci Albert. Yav, vous êtes à Kolwezi, bonjour.
Bonjour monsieur les journalistes.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, c'est Léonard Zama dans la ville de Kolwezi. Vraiment, la situation, elle est précaire. Si nous prenons d'abord, je peux vous faire une histoire de notre province du Lalaba. Vous prenez la route du Lolo Sandoa. De ce côté-là, les gens produisent beaucoup du riz. Vous trouvez aussi le manioc. Vous prenez Sandoa Kafakumba. Les gens produisent le maïs. Vous trouvez aussi des tomates là-bas.
vous trouvez aussi la viande. Vous prenez cette route, Kafakumba, vers Kayembe-Moukoulou. De ce côté-là, on produit pas mal de poissons. Il y a beaucoup de poissons. Mais il y a un problème. Vous prenez aussi Kawayongo, Kafakumba. De ce côté-là, on produit du maïs. Et ces gens-là, ils vous disent, quand vous arrivez là, que les histoires pourrissent comme ça, il n'y a pas le moyen des transports pour amener ça dans le milieu où on doit consommer ou acheter. Et ces gens-là, vous trouvez de viande qu'on met à 500 francs, vous trouvez le seau du maïs, là, on vous met le seau du maïs 300, 400 francs.
Mais il n'y a pas de route pour évacuer ces produits vers les centres de consommation.
Il n'y a pas de route. Vous arrivez là, des petites routes, c'est comme si ce sont des champs, sentiers ou quelqu'un qui part au champ. Et tout ça, ce sont les autorités. Si nous prenons aussi, vous prenez Dilolo, Kassaji Dilolo, on produit beaucoup des ananas là-bas. Et ces ananas-là, il y a des ananas qui pourrissent. Vous arrivez, les serres, ils vous expliquent comment est-ce qu'ils produisent, mais ils ne voient pas comment évacuer leurs marchandises vers la ville. Et tout ça, nos autorités devraient un peu prendre conscience de ça et dire que nous devons d'abord réhabiliter. Puisque la première position, si on peut faire ici chez nous, au Congo, il fallait d'abord réhabiliter des routes. Et si nous avions des routes praticables, vous allez vous rendre compte que le millier de consommation et les villageois viendront acheter du sel et ils rentrent au village. Mais chose grave que les autorités ne voient pas cet aspect-là. Si les autorités voyaient cet aspect-là, les Congolais ne devaient même pas pleurnicher actuellement. Il y a eu des semaines ici à Kolwezi où le farine est allé jusqu'à 100 000 francs. Et les gens se bousculaient. Je me disais, ces gens avaient beaucoup d'argent. Et les gens se bousculaient pour aller acheter. Et les autorités aussi n'ont rien fait. Même leurs mesures qu'ils ont prises pour qu'ils arrêtent à ça. Mais ça n'a même pas eu.
D'accord. Merci Yav. Merci Yav de Kolwezi. Simon, vous êtes à Kananga, bonjour.
Ouais, bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour également à tous les auditeurs. Simon Kalukanda Kananga.
Bienvenue Simon, quelle est votre préoccupation?
Ouais, j'ai très bien suivi notre premier invité, bien qu'il ne soit plus sur votre, dans votre studio. Mais nous devons noter au moins une chose, c'est que le coronavirus n'est pas venu nous plonger davantage dans la paresse. Hein, comme le disait par exemple notre premier invité, que non, ce n'est pas le moment par exemple de produire maintenant ou de cultiver, ça va produire trop tard, non. Et pourtant, pendant ces moments, c'est là où beaucoup de personnes ne se rendent plus au travail. On pouvait beaucoup plus investir dans l'agriculture. Mais par exemple, ici au Kasaï Central, je vais vous noter une chose. Je suis venu récemment d'un voyage en mission vers Luisa. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de nos frères, des pousse-pousseurs de vélos, communément appelés les Bayanda, qui sont beaucoup traumatisés hein, en route par les taxes vélos. Oui. Et pourtant, à cette période ici, on doit éviter des histoires comme ça, parce que, par exemple, ici au centre-ville de Kanang, nous sommes beaucoup plus ravitaillés par le pousse-pousseur de vélos qui viennent des villages avec des maniocs, des maïs.
Mais en cours de route, ils sont tracassés par... Il y a beaucoup de tracasseries en cours de route.
Oui, il y a beaucoup de tracasseries. Moi-même, j'ai vécu ça. Hein. J'ai fait des passages parce qu'il y a beaucoup de postes de taxes vélos. Maintenant, ils sont beaucoup tracassés. Et des histoires comme ça...
Et ça les décourage.
Ça ne va pas permettre à ce qu'il y ait beaucoup de produits qui entrent sur les centres-villes.
Et d'accord.
Le problème aussi, c'est que et nos frères qui sont un peu dans les centres, dans les milieux ruraux, ils ont une autre conception. Les autres ont peur de venir avec leurs marchandises au centre-ville par peur qu'ils seront contaminés. Parce que pour eux, le coronavirus, selon les rumeurs qui ont circulé récemment, qu'il y aurait quelques cas en Ganza et à Laza. Et donc, nombreux ont peut-être peur de venir ici par peur qu'ils seront contaminés. Alors, je demande à ce que les autorités puissent faire leur tout possible pour que nos frères là soient suffisamment informés. Il n'y a pas un cas suspect ici à Kananga.
D'accord.
Ils peuvent nous apporter ce produit-là et oui. Ça va nous servir vraiment de nourriture. Merci beaucoup.
Merci Simon. On va accueillir Jean de Dieu Minengu, doyen de la faculté d'agronomie de l'université de Kinshasa. Monsieur Jean de Dieu Minengu, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors nous parlons aujourd'hui de comment prévenir la crise alimentaire en cette période de Covid-19. Vous avez suivi les différentes interventions. Il y a beaucoup de produits qui pourrissent dans un milieu rural. Il n'y a pas de route des dessertes agricoles. Il y a les tracasseries, autant de problèmes. Alors en tant que scientifique, qu'est-ce qui doit être fait en cette période pour juguler la crise?
Merci pour l'invitation. Et je dois dire que, Jody, il y a très longtemps, nous avons passé notre temps à accorder beaucoup d'importance à ce que je peux appeler la jouissance collective. Et nous avons eu très peu de temps ou très peu de crédit pour accorder à ce que je peux appeler l'essentiel, c'est-à-dire la construction d'une société basée sur la sécurité alimentaire, la construction d'une société basée sur l'emploi des jeunes, la construction d'une société basée sur l'accessibilité à l'eau, à l'hygiène pour tous. Donc, tout ce qui était essentiel pour la société, pour la vie des gens, on n'a pas accordé beaucoup d'importance à ça. On était finalement dans ce que j'ai appelé finalement la jouissance populaire. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés par notre propre façon de gérer la société il y a plusieurs années. Nous étions dans ce que je peux appeler pendant plusieurs années, on était dans tout ce que appelle la gouvernance du ventre. Donc chacun travaillait pour son ventre, personne ne fournissait suffisamment des efforts pour construire une société qui doit être au service de tout le monde. C'est comme je l'ai toujours dit, le visage que représente un milieu de vie, c'est le résultat d'un long processus de transformation dans la longue durée historique. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec la crise de Covid-19, mais c'est le résultat de toutes les politiques publiques qui ont été mises en place pendant des années.
Professeur Jean Desdieux, je rappelle que vous êtes vice-doyen chargé de la recherche à la Faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa. Vous avez fait une communication dernièrement où vous avez dit qu'une mauvaise alimentation, un faible accès à l'eau potable et des mauvaises conditions d'hygiène sont des facteurs qui augmentent la vulnérabilité des communautés en cette période de la pandémie de Covid-19.
Oui, et je crois qu'avec la crise de Covid, il y a beaucoup de secteurs de la vie qui vont subir des transformations. Parce que cette crise, elle est sanitaire, mais elle entraîne d'autres crises. Il y a des crises alimentaires, il y a des crises économiques, il y a beaucoup de choses qui sont liées à cette crise due au Covid-19. Dans le secteur alimentaire, comme vous voulez le dire, que faut-il faire pour prévenir la crise en cette période de crise? Pas seulement pour prévenir la crise, mais nous devons également voir, parce que la crise de Covid n'est pas la dernière crise à survenir à travers les. Nous devons nous attendre à des crises beaucoup, peut-être beaucoup plus complexes que la crise de Covid. Donc, en dehors de ce qu'il faut faire maintenant pour empêcher la crise alimentaire, mais nous devons également une transformation radicale qu'il faut apporter pour que la République puisse faire face à de telles crises ou à de telles catastrophes. Concrètement, dans le court terme, je crois que l'État a déjà pris de nombreuses mesures que je trouve quand même justes. Mais je pouvais ajouter quelque chose. Il y a déjà quelques stocks alimentaires qui se retrouvent dans la ville de Kinshasa. Il appartient aux importateurs, il appartient aux grossistes, il appartient aux détaillants, il appartient aux ménages de gérer de façon efficiente, de façon responsable, l'épée des stocks alimentaires qui existent déjà. Ça, c'est vraiment une action très, très importante. La deuxième mesure qui peut être que déjà le gouvernement a déjà pris ça, il faut aller chercher les produits dans les trois pôles de production qui sont qui est situé dans l'entourage de la ville de Kinshasa. Je pense à la province du Congo central, je pense à l'ancienne province du Bandundu, il y a également l'ancienne province de l'Équateur. Pour la province du Bandundu, et la province du Congo central, c'est la voie routière qui est généralement privilégiée. Pour la province de l'Équateur, c'est généralement la voie fluviale qui peut être mobilisée pour pouvoir ramener les produits vers les centres de consommation. Je crois qu'il y a un intervenant qui venait de parler de tout ce qu'il y a comme taxes et d'autres tracasseries. Parce que moi, j'ai fait un voyage Kinshasa-Bandundu, je crois que c'est l'année passée, vers juillet.
Oui.
J'ai compté 32 barrières.
32 barrières entre Kinshasa et Kikwit.
Entre Kinshasa et Bandundu-ville, jusqu'au pont, oui. jusqu'à la rivière Kwilu pour traverser. 32 barrières que j'avais comptées. Mmh. Donc, ce qui veut dire que dans chaque barrière, un véhicule qui quitte Bandundu avec des produits, on laisse de l'argent. Et finalement, tout ça, ça a de l'impact sur le prix du produit sur le marché. Je crois qu'il est important.
Mais je pense que les autorités avaient demandé, le président avait demandé la levée de toutes ces barrières-là.
Oui, mais il faut suivre la mesure, parce que moi j'ai effectué également un voyage ici, j'ai effectué un petit déplacement jusqu'à Mongata, j'ai vu beaucoup de barrières aussi. Donc il faut que ces barrières qu'on allège, les responsables de la police doivent veiller à ce qu'on puisse réduire le nombre de barrières et faciliter la circulation des biens et services pour la ville, la province finalement de Kinshasa. Il y a une autre mesure que je trouve également importante, mais les gens peuvent dire que ce n'est pas trop, mais c'est une mesure nécessaire.
Il y a eu beaucoup de projets pour relancer l'agriculture en République démocratique du Congo, mais qui n'ont pas donné des résultats. Les projets n'ont pas donné des résultats parce que il y avait d'autres contraintes, mais c'est parce que les gens ont finalement détourné l'argent.
Le cas de Bukangalonzo.
Oui, il n'y a pas que Bukangalonzo, mon frère Joly. Pendant plusieurs années, 2014, 2012, 2010, on nous parlait de ce qu'on appelle la campagne agricole. Mais logiquement, c'était quoi la campagne agricole? Des moyens, des millions ont été investis. Mais je crois que la justice peut rappeler tous ces gens qui ont géré des campagnes agricoles parce qu'ils ont encore l'argent de l'État, parce que sur le terrain, il n'y a aucun résultat. On peut récupérer cet argent pour faire face à la crise de Covid. Il y a également les parcs agro-industriels de Bukangalonzo, ce que vous connaissez. Près de 100 millions ont été investis. Je crois que ça, c'est très récent. La justice peut rappeler ces gens-là de façon beaucoup plus rapide pour que l'État récupère cet argent. Parce que comme nous avons dit qu'il faut aller chercher les produits au niveau de la province du Bandundu, aller à l'Équateur et tout ça pour les routes, il faut un plan d'urgence pour réhabiliter les routes des dessertes agricoles. Donc en une semaine, on peut déjà réhabiliter pour faire en sorte que les produits arrivent au niveau des centres de consommation. Donc avec ça, on a besoin toujours de moyens. Mais il y a des individus qui détiennent encore l'argent de l'État,
oui,
qui ont très mal géré les projets. On peut récupérer cet argent et surtout qu'aujourd'hui, avec l'état des droits qui semble, à mon avis, en train de marcher. Donc, ce sera l'occasion pour le peuple et pour la République démocratique du Congo de récupérer. Il y a un projet qui est à côté de Kinshasa ici. Aujourd'hui, je crois que vous avez fait beaucoup d'émissions avec ces gens-là.
C'est lequel?
Les Daipen. Des millions ont été également mobilisés pour relancer cette grande entreprise. Mais j'ai visité ça à plusieurs reprises. Et finalement, on se pose des questions. On attend qu'on a mobilisé 40 millions, 50 millions pour relancer Daipen. Est-ce que c'est vraiment cet argent à destination pour eux? Aujourd'hui, il n'y a pratiquement... Alors que ce sont des entreprises comme Daipen. Vous avez la réserve stratégique générale qui est à côté de chez vous, là-bas. Mais finalement, ce sont des entreprises qui devraient jouer un rôle important à cette période de crise pour alimenter la population et à travers les différentes communes de la ville de Kinshasa. Donc, je crois aussi que c'est une mesure quand même nécessaire qui peut permettre à l'État de reprendre l'argent qui se trouve auprès des individus qui l'ont acquis de façon tout à fait malhonnête.
Bien.
Il y a d'autres mesures, mais je crois qu'on pourra continuer
au fur et à mesure. D'accord. Professeur, on va faire un tour à Mbujimayi où notre consoeur Esther Mdalafina nous propose un reportage. Vous savez, Mbujimayi étant au cœur de la République et cette province est enclavée, la province du Kasaï oriental est enclavée suite à la connexion difficile avec les provinces voisines suite au délabrement avancer des routes. Alors, comment préserver la chaîne d'approvisionnement alimentaire pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans cette province pendant cette période de crise sanitaire? Esther Mdalafina nous propose ce reportage.
Au Capi Service, à Kinshasa, en province et à travers le pays, découvrez vos problèmes grâce au reportage service.
Au Capi. Nous sommes reçus dans la famille de Madame Jeanine Mbelou. La nourriture est servie aux enfants. Elle explique le menu qu'elle a offert.
J'ai donné à mes enfants comme nourriture aujourd'hui les pondous, comme condiment les poissons salés et les foufous. Pour faire les foufous, nous avons mélangé la farine de manioc et la farine de maïs.
Pendant cette période de pandémie, les femmes chefs de ménage n'ont pas baissé le bras. Madame Marie Kalanga parle de la manière dont elle se procure de la nourriture. Oui, je pars au marché pour acheter les petites choses à revendre à domicile. Dès que j'ai l'argent, j'achète la nourriture. Nous mangeons avec mes enfants. Sur les marchés de Mbujimayi, les perturbations des prix sont minimes ces derniers temps. À titre illustratif, le bol de maïs de 3,5 kg coûte actuellement 3 000 à 3 300 francs congolais. Les femmes vendeuses de cet aliment de base de la province parlent d'une légère baisse. Monique Nseya. Les prix ont baissé et nous ne savons pas pourquoi. Ce sont les vendeurs qui connaissent le prix d'achat et le prix de vente. Mais récemment, il y a eu abondance de maïs. Maintenant, le prix diminue. Malgré la baisse des denrées alimentaires constatée ces jours, la malnutrition touche plus de 200 enfants de moins de 5 ans dans la zone de santé d'Enzaba. Quelques experts contactés estiment que des stratégies devraient déjà être adoptées. Selon Enoch Mbouye Kabeya, assistant à l'ISTEM Mbujimaï, les parents doivent offrir une nourriture équilibrée à leurs enfants.
On doit varier les aliments, que dans l'alimentation qu'on trouve quand même les aliments qui peuvent vous fournir des protéines. Il faut qu'il y ait des aliments qui peuvent vous fournir des glucides, autrement dit qui sont riches en sucre, parce que ces aliments-là vous fournissent suffisamment de l'énergie dont on a besoin. Par là, il faut par exemple les céréales. Nous avons des tubercules. Parmi les céréales les plus consommées ici, nous avons les maïs, nous avons les riz et aussi des légumes, hein, et sans oublier les fruits. Ici au Kasaï, nous avons beaucoup de diversité de fruits. Donc on peut varier ces aliments-là pour bénéficier plus des aliments qui sont riches en vitamines et aussi en sels minéraux.
Pour éviter les risques d'une crise alimentaire imminente, Enoch Kabeya pense que les parents devraient entretenir des potagers dans leurs parcelles.
On peut profiter pendant ce temps d'avoir un peu de potager, hein, chez soi à la maison, et ça peut aider de façon à ce qu'on puisse accéder à certains légumes.
Bien qu'étant enclavé, le Kasaï oriental dispose des terres arables. C'est ce qu'affirme le député provincial Roger Chimbundo, élu de Miabi. Il souhaite plutôt que les routes de dessertes agricoles soient réhabilitées.
Miabi est également un grenier agricole. Mais c'est le moment de commencer par là. Moi, j'ai par exemple des espaces qui peuvent nourrir toute la province. Moi, j'ai des terres arables qui viennent de Kamiji et tout ça. C'est le prolongement d'un sol huilé, argileux. Donc, je n'ai pas besoin d'engrais chimiques et tout ça. Mais malheureusement, il faut traverser un pont à lien pour y arriver. Comprenez qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que l'autorité s'investisse pour couler des petits ponts sur ces rivières.
Pour atténuer les effets de la pandémie sur l'alimentation et l'agriculture, l'ingénieur agronome Kalonji Milabi, coordonnateur provincial du Service national des fertilisants et intrants connexes, Senafic en sigle, exhorte les dirigeants à maintenir la fluidité des chaînes d'approvisionnement alimentaire, à gagner en efficacité et à réduire les frais liés au labour et au commerce.
Il faut partir d'une unité de surface qui est 1 hectare. Faire un coût de tout ce qu'il faut. On peut maintenant extrapoler à l'ensemble de la population exploitante. On peut appuyer les exploitants. Ils ne vont que rembourser ça à la récolte. L'État va récupérer ce qu'il a pu dépenser, ce qu'il a pu appuyer ses exploitants. Et les exploitants restent avec leur bonus. Il y a les tracteurs. Dans chaque entité, labourer avec les tracteurs, donner les semences, des variétés améliorées. Vous donnez maintenant les intrants, donc les engrais, les herbicides, pour essayer un peu de diminuer la corvée de sarclage. Il ne faut pas terminer là. Il faut arriver à encadrer ces paysans. Il faut déjà fixer un prix plancher où ils peuvent vendre et se retrouver.
Cependant, à la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, les directeurs provinciaux invitent les opérateurs économiques à utiliser la voie fluviale pour approvisionner la province en denrées alimentaires. Ils pensent ici au port d'Ndomba dans les territoires de Kabeya-Kamwanga. Dominique Ilunga.
Des messages d'encouragement, d'appeler également d'autres armateurs qui sont à Kinshasa, tels que Wandeka et autres, de pouvoir faire prospection sur la voie fluviale et d'approvisionner régulièrement et à moindre coût la province du Kasaï oriental pour permettre à notre population déjà appauvrie de faire face et d'acheter facilement le produit à moins cher.
Alors que le Covid-19 constitue vraisemblablement un choc, certains experts demandent aux décideurs d'assurer et promouvoir la fluidité du commerce alimentaire en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition, mais aussi de soutenir les systèmes alimentaires locaux en les reliant notamment aux grandes chaînes d'approvisionnement alimentaire. Esther Ndalafina Mbujimaï, Okapi Service.
Radio Okapi.
À Mbujimaï,
Okapi,
sur 93.8 FM.
Okapi.
Merci Esther Ndalafina pour ce reportage. Professeur Jean des Dieux Minengou, vous avez suivi cet élément. Votre réaction?
Je tiens à remercier d'abord tous les intervenants qui ont dit des choses extrêmement intéressantes dans ces reportages. Comme nous l'avions dit dans l'article qui a été publié dans notre revue, c'est qu'une alimentation équilibrée peut permettre aux gens de pouvoir améliorer le système immunitaire. Nous ne disons pas que celui qui mange bien ou les aliments peuvent détruire les pathogènes qui se trouvent dans le corps, mais quelqu'un qui mange bien, des aliments qui apportent des nutriments nécessaires dont l'organisme a besoin, cette personne améliore son système ou renforce son système immunitaire et il peut résister à des cas, des attaques, des maladies comme COVID-19 ou comme Ebola et d'autres pandémies qui peuvent survenir à travers le monde. Ça, c'est extrêmement important. Mmh. Mais il est aussi important que dans les régions où la culture des champs n'est pas très, très ancrée dans la mentalité des gens, surtout à ce qui concerne la culture des jardins de cases, et il est important que les services habilités sensibilisent les gens. Parce que pour avoir des légumes, c'est en un mois, on a des légumes pour manger. Donc, je trouve qu'ils ont tellement raison. Il faut encourager les gens à faire ça. À ce qui concerne la fluidité, je l'ai déjà dit. Donc, on ne va pas favoriser une seule voie. On peut aussi voir des possibilités pour faire venir des produits qui se trouvent dans l'est du pays. Vous avez les haricots qui est produit en grande quantité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Oui. Donc, on peut utiliser la voie aérienne avec des cargos, mais tout en jouant sur les taxes qu'il faut supprimer pour permettre ce que ces produits arrivent dans les centres de consommation et permettre les gens de pouvoir vivre normalement. Et il y a également les systèmes de production locaux qu'il faut encourager. Ça, c'est très bon. Aujourd'hui, avec COVID-19, vous avez une mesure qui désarticule les systèmes économiques des pays fragiles comme la République démocratique du Congo. C'est le confinement. Les riz que nous consommons ici, ça peut venir de la Thaïlande, ça peut venir... Aujourd'hui, les agriculteurs en Chine, en Thaïlande, s'ils sont confinés, où est-ce que nous allons trouver des riz pour manger ? Donc, nous nous retrouvons devant une situation extrêmement difficile pour faire face à ce genre de pandémie. D'où l'intérêt pour la République démocratique du Congo et de pouvoir soutenir les systèmes de production au niveau local. Parce que quand nous mangeons ce que nous sommes en train de produire, nous connaissons la qualité de ces produits.
Oui.
Et ça peut apporter de l'argent à ceux qui réalisent cette activité. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo dépense près de 1,5 milliard de dollars pour importer de la nourriture. Mais si cet argent était envoyé chez nos producteurs à l'Équateur, à l'Est, à Bounagana et partout, donc les gens ne seront pas pauvres tels qu'ils le sont aujourd'hui. En réalité,
professeur,
c'est l'argent qui devrait se retrouver chez nos agriculteurs, mais comme nous n'avons pas encouragé le système de production au niveau local, mais c'est de l'argent qui va finalement ailleurs. Mais on ne peut pas encourager le système de production seulement en parlant. Il est important, ça je parle en tant que défi à relever pour la République démocratique du Congo, c'est de mettre en place des politiques au niveau national qui permettent de relancer effectivement l'agriculture. Il faut un programme pour relancer l'agriculture avec comme objectif...
Professeur Jean Dédieu, est-ce que c'est... Oui, professeur, on parle toujours de ces programmes. Est-ce qu'on n'a jamais élaboré ces programmes-là?
Mais je sais qu'il y a un programme qui est qu'on appelle le FINIA qui va arriver à la fin de 2020 ici. Mm-hmm. Il faut remplacer ce programme par un programme que je trouve beaucoup plus dynamique et beaucoup plus réalisable sur le terrain. Je vais vous dire une chose. Je dis déjà au courant de l'année 2019, sous l'instruction du président de la République, Félix Tshisekedi, on a élaboré le programme national eau, hygiène et assainissement en République démocratique du Congo. Alors, beaucoup de gens nous posaient, est-ce qu'il n'existait pas de programme ? Il n'existait pas de programme. Il existait, on dit, quelques feuilles de route. Une feuille de route n'est pas un programme. Mais nous, c'est la première fois que nous mettons en place un programme clair, dynamique, avec les objectifs, avec les indicateurs clairs.
Professeur, on dit souvent dans notre pays, on a des bons programmes, on a des belles résolutions après les rencontres, mais au niveau de l'exécution, c'est là où ça pose problème.
Je comprends la crainte des gens. Je comprends tout ce que les gens disent. On élabore le programme et finalement on le met pas en place. Oui, ça c'est clair. C'est le travail aussi de la population d'appeler le pouvoir public. Voilà, vous avez mis en place un programme, mais sur le terrain, nous ne le voyons pas. Mais je crois qu'il y a un changement total de gouvernance en République démocratique du Congo. En termes de volonté politique, surtout, c'est ça qui compte beaucoup. Et je crois que les choses sont en train de changer petit à petit. Et je crois que nous ne pouvons plus accepter à ce que le programme qui ont été élaborés et puisse être gardé dans les tuyaux. Ça ne se fera plus.
Bien, on va... Par exemple, oui, professeur Jean Dédieu.
C'est très important également.
D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir deux auditeurs, Shadrack de Kikwit et Chikomputu de Mbandaka. Shadrack, bonjour.
Oui, bonjour la Radio Capi. Et bonjour à notre invité, le professeur qui est à votre plateau.
Bienvenue Shadrack de Kikwit. Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation sur le sujet d'aujourd'hui, vraiment un sujet aussi très important. Je crois que la fois passée, j'avais appelé pour les sujets aussi.
pour les produits agricoles, ici nous sommes à Kikwit. Les gens croient que quand on part à Bandundu ou dans les bas Congo pour aller acheter des produits agricoles, on achète à Kikwit, soit on achète à Idiofa, soit on achète à Boulungu. Mais pendant qu'il y a des grands villages, il y a dans des villages des grands producteurs de produits agricoles. Je vais vous dire une petite histoire. Mon père fit un grand travailleur. Il a travaillé avec les Blancs donc, après l'indépendance. Donc dans les Kouilou, il y a plus ou moins 50 sociétés que les Blancs ont investi dans les Kouilou pour les produits agricoles. Alors, ces produits agricoles prenaient des voies. C'était la voie fluviale vers la rivière Kassai, la rivière Kouilou et dans la voie routière. Dans Idiofa, il y avait Mangaï qui était le centre des produits agricoles. Actuellement à Mangaï, il y a plus ou moins 7 ports qui ont été bâtis par des Blancs. Il y a des grands dépôts, des grands entrepôts.
Et là, à Mangaï, on ne produit plus à Mangaï?
Oui, parce que à Mangaï, ce n'est pas Mangaï seulement qui produisait, des petits villages, puisque les routes sont abîmées. Il y a des grands dépôts abandonnés à leur triste sort, puisque l'État ne s'intéresse plus à ça. Et par exemple, en 1986, il y avait une société Solbena qui achetait des maïs. Il avait donné une statistique de 200 000 tonnes par an qu'il avait acheté. Pendant que Solbena achetait, La Solfer achetait, Coréman achetait, Moliak achetait, Akomar achetait, TPA achetait au même moment, dans les mêmes villages. Alors, actuellement, tous ces dépôts sont abandonnés. Tous les villageois maintenant sont partis à Kinshasa à la recherche d'une bonne vie, pendant que sont ces villageois-là qui produisaient. Et quand vous les voyez à Kinshasa, ils vendent de l'eau, des yaourts, de tout, à la recherche d'une bonne vie à Kinshasa.
Alors, quelle est la solution que vous proposez, Shadrack?
Oui, nous avons fait une campagne de sensibilisation à Boulungu et dans ces grands villages. Nous avons sensibilisé au moins 3630 grands villages producteurs. Nous les avons parlé de l'importance. Nous les avons informés et d'augmenter leur production.
Mais comment vont-ils augmenter la production? Ils n'ont pas des intrants, ils n'ont pas tout ce qu'il faut, pas assez de moyens pour booster la production locale.
Oui, nous avons notre fédération FADAC. Nous les avons quand même fourni des machettes et quelque chose que nous avons à nos propres moyens. Puisque dernièrement, j'étais à Zambie, j'étais aussi en Namibie, en Angola, voir comment les gens produisent les maïs qui proviennent d'Angola pour venir vendre ici à Kinshasa. J'ai dit comment nous, ici ou dans les Kouilou, nous ne pouvons pas nous organiser à faire aussi des minoteries, des grandes minoteries pour amener les maïs. Puisque à partir de Mangaï ravitaille, Kananga ravitaille, le Boumachi et Mbujimaï, et Chikap aussi, Mangaï ravitaille Kinshasa. Là, les grands bateaux, là où il y avait des grands bateaux, de Natra et de plusieurs bateaux qui sont dans les ports là. Et par exemple, chaque jour quand vous allez à Kinshasa, vous voyez des véhicules qu'on appelait Mama Libongo, les Mama Libongo, Libongo, Ndolo Libongo. Chaque jour à Kinshasa, vous voyez ces véhicules-là descendre Libongo. Mais ces maïs et toutes ces histoires viennent ici dans les Kouilou, proviennent du Kouilou. Dans la voie routière, il y a des petites quantités qui viennent. C'est pourquoi nous avons organisé notre solution à celle-ci. Puisqu'il y a l'urgence dans notre pays,
oui.
Nous avons sensibilisé beaucoup de villageois. Ils ont dans des dépôts. Il y a des maïs et des maniocs, mais la route est vraiment faite.
C'est la route qui pose problème. Merci Shadrack. Oui, d'accord, on va donner la parole à Chico Mputu de Mbandaka. Bonjour Chico.
Bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre c'est la crise alimentaire, prévenir la crise alimentaire en cette période de Covid-19? Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bon, selon moi, je vois qu'il faudrait que l'État puisse développer les secteurs agricoles, c'est-à-dire chercher les moyens à équiper les secteurs avec des intrants et des semences améliorées. Mais aussi, il faudrait voir la communauté locale, parce que souvent, les centres-villes ne produisent pas. C'est la communauté qui produit pour alimenter
les
grandes villes.
Oui.
Oui, mais il faudrait encadrer les communautés d'échanger les méthodes, parce que vous voyez que nos papas gardent encore les anciennes
les mêmes techniques agricoles.
C'est la façon de cultiver les produits agricoles. Mais aussi, j'avais une question à poser à l'invité Alkitine, malgré tout, il n'est plus là encore au plateau. Lorsque Ale Kitenge parlait que la ville de Mbandaka pour le moment doit alimenter la ville de Kinshasa. Mais je dis, il faudrait voir, peut-être, je ne sais pas si Ale Kitenge, il a vécu ici à Mbandaka. Nous-mêmes ici, la vie pose encore difficile. Un bidon d'huile qu'on achetait à 12 000 francs, maintenant c'est à 25 000 francs. Un sac de maïs, c'est à 80 000 francs. Mais comment nous-mêmes ici, nous mangeons difficilement, nous vivons difficilement, nous allons alimenter encore la ville de Kinshasa.
Aussi non, bon, je pense qu'il a voulu dire tout simplement que Mbandaka devait être à mesure de nourrir la ville de Kinshasa, parce que c'est aussi une province où il y a la production de poissons et beaucoup d'autres choses.
Non, je dis, mais ici la production, nous-mêmes ici, c'est un calvaire, je dis. Nous-mêmes ici, ça pose un problème. Et ils prenaient, par exemple, on achetait un bidon d'huile à 12 000 francs, maintenant à 25 000. C'est-à-dire qu'au milieu, là où on produit de l'huile, il n'y a plus encore la production. Alors, comment avec cette quantité, nous allons encore alimenter la vie de
Kinshasa. Il faudrait d'abord
voir au niveau des communautés locales là où on produit, il faut susciter la production.
D'accord. Merci Chico Mputu de Mbandaka. Professeur Jean Desdieu, vous avez suivi, vous avez la parole.
Oui, merci pour la parole. Je tiens à remercier notre ami Chadra qui l'a appelé de suite, ainsi que Chico qui a appelé Mbandaka. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent maintenant, c'est de la même manière que je réponds à des intervenants, c'est que nous sommes devant des crises qui sont provoquées par COVID-19, crise alimentaire, crise économique. Nous sommes dans l'obligation de trouver des solutions à l'immédiat et nous sommes dans l'obligation de proposer ce qui doit être fait dans le futur pour que, en cas de telle crise, que la République puisse en sortir. J'ai déjà évoqué ce que le gouvernement a déjà dit et ce qu'il fallait faire, mais j'ai ajouté quelques éléments qui peuvent permettre à ce que la crise alimentaire soit gérée pendant cette période de COVID-19. Pour être beaucoup plus clair par rapport aux questions posées par des amis,
oui.
Ils sont dans l'optique de la relance de l'agriculture. L'agriculture, on ne la relance pas parce qu'il faut distribuer des intrants aux gens. C'est ça que le gouvernement passé était en train de faire. Campagne agricole, on achète des semences, on distribue des gens, on prend quelques tracteurs, voilà, nous sommes en train de... Non, on ne relance pas l'agriculture en distribuant des intrants aux producteurs. La relance de l'agriculture doit être une planification, doit être une politique au niveau national pour relancer. Et ça, c'est hyper important. Mais quand on se lance dans des aventures, on distribue des engrais, et à la fin, vous avez distribué des engrais, les gens produisent, comme ce n'est pas dans une planification pour relancer la ville, il n'y a pas de route.
Alors, par où faut-il commencer? Chico a parlé des routes des dessertes agricoles. Il y a également Yav qui nous a appelé des Colisies. Il nous a dit que vers Sando, Akassa, Jidi, Lolo, il y a beaucoup de production, mais le problème, c'est il n'y a pas de route pour évacuer ces produits vers les grands centres de consommation.
Oui, et en fait, on ne développe pas le pays parce que les gens se plaignent, les gens veulent dire ceci, cela. Non, on développe le pays avec des stratégies cohérentes et justifiées. On peut réparer les routes aujourd'hui, on amène les produits, il y a beaucoup de produits sur le marché, mais les surplus, vous les faites quoi? Ça pose problème. C'est ainsi que je reste convaincu que la réhabilitation des routes de dessert agricole et d'autres voies de communication, cette stratégie doit faire partie d'une politique au niveau national. Ça doit être un ensemble. Vous réhabilitez les routes, vous donnez des intrants, vous mettez les agriculteurs en coopérative, vous créez des centres peut-être de regroupement, vous avez des petites unités de transformation de produits. C'est comme ça qu'il faut voir l'agriculture.
D'accord. Professeur Jean Desdieu.
Oui, c'est que dans les jours qui viennent,
oui.
Et je termine aujourd'hui, nous l'avions proposé déjà en septembre. L'université de Kinshasa, Lubumbashi, l'université de Kisangani, nous avons travaillé avec beaucoup de collègues pour aider le pays de se doter d'un programme dynamique pour relancer l'agriculture, réduire les importations et assurer la sécurité alimentaire. Ça n'a pas marché. On ne s'est pas mis d'accord par rapport à l'approche, par rapport à ce qu'il faut faire. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes rattrapés par tout ça. Si on a
d'accord. Professeur Jean Desdieu, oui.
On pouvait faire face à ce sujet.
Je reviens à vous dans quelques instants. Comment prévenir la crise alimentaire en période de COVID-19? Nous allons suivre rapidement ce reportage des Nana plus riches Mambou de Matadi.
Au Capi Service, à Kinshasa, en province et à travers le pays, découvrez vos problèmes grâce au reportage Service.
Au Capi.
Okapi.
Au Congo central, le secteur de l'agriculture est frappé de plein fouet. Cette saison culturelle est fatale. En Banzangungu, à environ 200 km à l'est de Matadi, 20 hectares devront produire près de 400 tonnes de pommes de terre, 1000 hectares de manioc en âge de maturité ont été tous engloutis par les inondations. Le désastre s'est également produit à Madimba, Lukala, Kwilungongo et à Tchela, où près de 2000 hectares de différentes cultures, à l'instar des haricots, manioc, arachides, maïs et autres légumineuses, qui nourrissent une grande partie de la province et la ville-province de Kinshasa, ont été détruits à 4 reprises par les eaux de pluie torrentielles. À cela s'ajoute le délabrement fort avancé des routes des dessertes agricoles. Victor Nzuzimbembe, président de l'Union des coopératives maraîchères de Simbani, explique.
À cause de l'humidité, donc, on a perdu pratiquement plus de 60% de ces boutures qui pourrissaient à cause de l'humidité. J'ai visité encore hier mon champ de manioc où il y a eu l'arachide. Je vous assure que ça m'a fait beaucoup de peine parce que près de 60% de boutures n'ont pas résisté. Les gens parlent de coronavirus, c'est pourquoi les produits agricoles ont augmenté. Mais ce n'est pas vrai, parce que nous vivons aujourd'hui l'impact des inondations. Les sacs de manioc, 60 kilos, qui étaient à 7000 francs, 6000 francs au mois de décembre l'année passée, au début de l'année, de cette année 2020. Aujourd'hui, ce sac de manioc est à 12000 francs. Et quand vous prenez la mesurette de haricots qui était à 500, 600 francs, aujourd'hui c'est à 2000 francs.
Après avoir enregistré cette gigantesque perte, ces producteurs se sont vus dans l'incapacité de reproduire. Malgré leurs cris de détresse, aucune autorité n'est venue à leur secours, a fait savoir Victor Ndouzi. Cependant, il se souvient d'une campagne agricole en vue de remédier à la situation. Mais en tant qu'expert en matière agronomique, la campagne n'a pas été pour beaucoup.
Vers le mois de fin décembre, début du mois de janvier, février, Le gouvernement du Congo central avait lancé une campagne agricole. En Banzaung, où j'ai vu des boutures qu'on venait récupérer à l'INERA. Mais c'était une campagne agricole, je ne sais pas même s'il faut l'appeler campagne agricole, parce que rien n'est démontré que c'était une campagne agricole. De toute façon, le gouvernement appelait ça campagne agricole. Et malheureusement, comme c'était très mal organisé, beaucoup de boutures qui ont été coupées, qui devait être livré par le centre de recherche agronomique à l'INERA en Voisy. Beaucoup de ces boutures sont restées ici au centre de recherche et ces boutures ont séché carrément. Parce que quand on demandait à l'INERA de couper, c'était coupé. Et finalement, il n'y avait pas de moyen de transport pour venir les enlever, les récupérer. Donc beaucoup de boutures ont séché ici. Et quand vous allez aux environs de Mbanzangungu, il y a beaucoup de boutures dans des villages qui ont séché aussi, puisque c'est un travail qu'on a fait à la hâte, sans beaucoup de préparation. Donc mélangé aujourd'hui au coronavirus, il faut réellement qu'il y ait une campagne agricole qui doit être soutenue. Sinon, la situation risque d'être catastrophique pour le paysan et même pour les citadins. Donc, vous avez les inondations, vous avez l'état des routes, vous avez l'état qui n'a pas pris des précautions pour soutenir l'agriculture. On se demande comment est-ce qu'on va vivre.
Pour sa part, l'Association des consommateurs de la ville de Matadi, ASEM, dans son rôle de défendre les droits du consommateur, regrette avec amertume la situation vécue par ses agriculteurs, laquelle situation ayant occasionné la rareté criante des produits agricoles sur les marchés avec comme conséquence la flambée des prix sur les marchés. Pierre Vikasimba, chargé de communication de l'Association des consommateurs de Matadi, plaide aux autorités tant nationales que provinciales pour un meilleur accompagnement des agriculteurs, surtout en cette période de crise sanitaire.
Donc nous, étant qu'association des consommateurs, vraiment nous sommes en train d'appeler les autorités à pouvoir accompagner ces agriculteurs de telle sorte que la production puisse être énorme et qu'on peut arriver à satisfaire les besoins des consommateurs. Et l'accompagnement que nous désirons ici, c'est quoi? L'État, en tant que garant de la nation, doit faire accompagner les agriculteurs, par exemple des moniteurs agricoles. Et ils savent que en telle circonstance, voilà comment on peut arriver à s'y prendre. Non seulement qu'on va les accompagner en termes des techniques à utiliser, mais ils ont aussi besoin des moyens. Les produits, par exemple, les semences, ils ont besoin des semences, ils ont aussi besoin du matériel aratoire. L'insécurité alimentaire, il n'y a qu'une seule arme qui peut arriver à assurer c'est la production. Nous ne vivons plus la loi de l'offre et de la demande supérieure. Vous verrez que les choses vont aussi coûter moins cher et les gens vont manger à moins cher.
Radio Okapi. Matadi
Okapi
sur 102 FM.
Okapi.
Bien, merci Nana Pluriche pour ce reportage. Professeur Jean Desdieux, on a suivi que pour faire face à la crise alimentaire, c'est de booster la production, accorder un meilleur, accompagner les producteurs locaux, mettre à leur disposition des moniteurs agricoles, des semences et autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets?
Merci, je viens de suivre ce reportage très intéressant, ce qui veut dire que la situation est grave également au niveau rural, parce que les champs sont dévastés par les inondations, couplé à cela l'état des routes qui est complètement défaillant. Donc la situation est dramatique. Mais le plus important, ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, surtout et là où le reportage a été fait, c'est que on ne sait plus pleurer maintenant, c'est trop tard. C'est plus le moment de pleurer, mais c'est le moment de solutionner les problèmes. Et le gouvernement, comme vous l'avez suivi, vous l'avez annoncé à travers les médias, le gouvernement est en train de s'employer pour minimiser tant soit peu la crise alimentaire, pour assurer au moins la sécurité alimentaire de la population. Les mesures ont été prises. Nous, j'ai proposé d'autres mesures qui peuvent être également prises. Mmh. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas en un jour qu'on peut régler tout ça, ou en une année, ou en quelques mois. Nous n'avons pas depuis plusieurs années réfléchi sur de telles catastrophes, comment les pays peuvent s'en sortir. Aujourd'hui, j'ai parlé de la réserve stratégique générale. Quand vous lisez l'ordonnance portant création de cette structure, vous allez vous rendre compte que c'était très bien réfléchi. Cette structure devrait intervenir pendant des périodes de crise.
Oui.
Parce que c'est la réserve stratégique. Comme les agriculteurs, les gens sont confinés dans les maisons. C'est la réserve stratégique qui devrait nous aider à approvisionner avec tout ce qu'il y a comme produit de première nécessité.
Professeur Jean Desdieux.
Mais depuis sa création.
Oui. Professeur. Professeur.
Qu'est-ce que cette structure fait aujourd'hui? Elle est l'ombre d'elle-même.
Voilà. On aura l'occasion de revenir dessus. Professeur Jean Desdieux Minengou, je rappelle que vous êtes vice-doyen, chargé de la recherche à la faculté d'agronomie de l'université de Kinshasa. On s'arrête là pour aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.